VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 18h30 temps universel. On est lundi 3 mars 2020. 2 mars plutôt 2020. Abdourahman Dia, la présentation, voici les titres. Un premier cas de coronavirus confirmé au Sénégal. L'épidémie de Covid-19 continue de se propager à travers le monde avec plus de 3000 morts. Plus de 50 personnes ont été tuées dans l'état de Kaduna au Nigeria par des bandits armés selon les autorités. Au Mali, 6 soldats ont été tués dans une attaque à Mondoro dans le centre du pays. Les Israéliens aux urnes ce lundi pour choisir leurs députés pour la 3e fois en 1 an. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et en sport. Yacouba Ouédraogo revient sur la démission du secrétaire général de la CAF. Mais tout d'abord, le journal. Le Sénégal vient de confirmer son premier cas de coronavirus. Un Français résidant au quartier résidentiel des Almadies et récemment revenu de Paris a été admis au service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fane. Le ministre de la Santé a confirmé l'information et la mise en quarantaine du malade ainsi que la mise en observation de sa femme et de ses enfants. Le pays est en alerte, nous dit notre correspondant à Dakar, Sédina Abagué.
Le Français qui vit à Dakar a voyagé avant-hier samedi 29 février via Air Sénégal. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale va d'ailleurs réclamer le manifeste pour suivre les passagers de ce vol. Pendant ce temps, l'inquiétude grandit à Dakar, d'autant plus que des dizaines de Sénégalais, dont des ministres, des députés, des directeurs généraux et des hauts conseillers, ont pris part à la 57e édition du Salon international de l'agriculture de Paris. Plusieurs membres de cette délégation pourraient être exposés car un élu local français a été testé positif au coronavirus alors qu'il s'était rendu au Salon de l'agriculture. Face à cette situation préoccupante, le chef de l'État Macky Sall a affirmé que le Sénégal n'est plus à l'abri de cette maladie. Ainsi, il a réuni les médecins, les professeurs, les directeurs de la santé en relation avec l'OMS, l'Institut Pasteur et les membres du gouvernement pour regarder les mesures à prendre. Le président Sall a aussi demandé aux Sénégalais de faire attention aux recommandations qui sont faites par les services de la santé sur l'hygiène des mains, la propreté, mais aussi d'éviter les rassemblements inutiles en cette période. À Dakar, Seydina Bagay pour VOA Afrique.
L'Organisation mondiale de la santé fait état de près de 90 000 cas confirmés dans 67 pays et plus de 3 000 décès. Au Nigeria, 58 personnes ayant eu des contacts avec l'Italien infecté à Lagos ont été placées en quarantaine. Un nouveau cas a par ailleurs été enregistré en Égypte, le second recensé dans ce pays. Un autre décès a été confirmé sur le sol américain, un deuxième décès. Un premier cas avait été diagnostiqué à New York. La patiente a été confinée dans sa demeure. Dans le nord du Nigeria, au moins 50 personnes ont été tuées dimanche lors d'une attaque de bandits armés dans 3 villages de l'état de Kaduna, selon la police locale. Nathalie Barche.
Une centaine d'hommes armés ont attaqué les villages de Kerawa, Zareyawa et Marina dans le district d'Igabi, tirant sur des habitants, pillant et incendiant des maisons. Un chef du village de Kerawa a assuré que 51 victimes ont été enterrées dimanche après-midi après l'attaque, qu'il présente comme des représailles aux opérations militaires. En février, l'armée a affirmé avoir tué 250 bandits dans les forêts de l'état de Kaduna. Dans une déclaration ce lundi, le sénateur de l'État, Shehu Sani, a déclaré que l'insécurité omniprésente dans le Nord était entretenue par le silence de ses élites et l'inaction du gouvernement. Les homicides et les enlèvements sont devenus monnaie courante dans les États de Kaduna, Katsina, Zamfara et Niger, a dit M. Sani, affirmant que les bandits du Nord imposent des amendes et des taxes, envoient des avis et contrôlent les territoires.
Au Mali, le village de Mondoro, dans le centre du pays, a été attaqué la nuit dernière avec un bilan de 6 militaires tués, 10 blessés, nous dit notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Mondoro est dans le cercle de Douanza, région de Mopti, et c'est le passage obligé des groupes terroristes vers le centre du pays. C'est pour cela que ces groupes tentent toujours de faire tomber les positions avancées des forces armées maliennes FAMA pour gagner du terrain. C'est ainsi qu'ils ont essayé de s'attaquer aux FAMA dans la ville de Mondoro. Selon les habitants, les combats se sont déroulés loin de la ville, avec des tirs nourris. Il y a eu l'intervention des avions. Certains habitants terrés au fond de leur case entendent entendait les bruits des avions. C'est au cours de cette opération que les FAMA ont détruit deux colonnes de véhicules et de motos terroristes à Mondoro. Deux sites de regroupement des terroristes ont aussi été détruits. Cela fait suite à une attaque des groupes terroristes contre les FAMA dans la nuit du 1er mars 2020. C'était aux environs de 22 heures. Au cours de cette opération, les FAMA déplorent 6 morts, 10 blessés, des engins endommagés. Les frappes aériennes ont été déclenchées dans la nuit et ont permis de grosses pertes humaines et matérielles chez les groupes terroristes. Le calme était revenu et certains habitants ont repris leurs activités. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La CEDEAO juge illégale les investitures de deux chefs d'État rivaux en Guinée-Bissau. L'organisation régionale appelle aussi l'armée à rester neutre dans la querelle post-électorale qui se poursuit deux mois après la présidentielle. En Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale et le Sénat seront réunis en congrès jeudi pour le discours annuel du président Alassane Ouattara sur l'état de la nation. Le chef de l'État avait annoncé en janvier qu'il procéderait en mars-avril à une révision constitutionnelle dont on ne connaît pas encore le contenu. Ce discours pourrait être l'occasion de dévoiler les changements qu'il compte apporter. Les évêques du Togo ont dénoncé le manque de transparence et d'équité de la présidentielle du 22 février, largement remportée par le président Fornia Singbe avec plus de 72% des voix. Cette élection s'est globalement déroulée dans un climat relativement apaisé, mais pour ce qui concerne la transparence et l'équité du scrutin, on ne peut pas en dire autant, affirment les évêques dans un communiqué. L'opposant et ancien premier ministre Agbeyome Kodjo, arrivé deuxième avec 18,37% des voix, a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle. Et puis la conférence épiscopale de la République démocratique du Congo, la CENCO, accuse la coalition au pouvoir de prendre en otage le peuple sur la base d'un accord qu'elle qualifie d'occulte et dénonce l'enrichissement scandaleux de quelques responsables politiques. Les évêques dénoncent dans un communiqué publié ce lundi une tension préoccupante au sein de la coalition au pouvoir qui regroupe les forces politiques du président Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. Les écrivains écrivent que les alliés semblent plus préoccupés par leur positionnement politique que par le service à rendre au peuple qui continue à croupir dans la misère.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Israël, 6 400 000 électeurs votent pour départager l'opposant Benny Gantz au premier ministre Benjamin Netanyahou lors des troisièmes législatives en moins d'un an. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Benjamin Netanyahou a appelé ses partisans à voter en masse pour assurer la victoire. De son côté, Benny Gantz a dit espérer mettre fin au dérapage, aux mensonges et à la manipulation de son rival. Les législatives en avril et septembre 2019 n'ont pas permis de départager le Likoud de M. Netanyahou et le Kaol Lavan, parti de M. Gantz. Benjamin Netanyahou est devenu en novembre le premier chef de gouvernement israélien en fonction à être mis en examen. Il est soupçonné de corruption, malversation et abus de confiance et son procès s'ouvre le 17 mars. L'inconnu de cette élection demeure la participation liée entre autres à la crainte du nouveau coronavirus. Des bureaux de vote spécifiques ont été désignés pour environ 5 600 Israéliens entrés en contact avec des personnes contaminées ou ayant voyagé dans des pays touchés par l'épidémie. Selon un dernier bilan, 10 cas ont été recensés en Israël. Des partis redoutent que la propagation de fausses nouvelles sur cette épidémie pousse les électeurs à éviter les bureaux de vote.
Les talibans afghans ont annoncé mettre un terme à la trêve partielle instaurée le 22 février et reprendre leur offensive contre les forces de sécurité afghanes. Une annonce qui intervient deux jours après la signature d'un accord historique avec les États-Unis. Mais les talibans affirment que selon cet accord, ils ne vont pas s'en prendre aux forces étrangères. Et nous y reviendrons en partie magazine. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé ce lundi que des millions de migrants se rendraient en Europe après l'ouverture des frontières, accentuant la pression sur l'Occident. Depuis que la Turquie a ouvert vendredi ses frontières avec l'Europe, plusieurs milliers de personnes se sont ruées vers la Grèce, une situation préoccupante pour l'Europe qui redoute une nouvelle crise migratoire majeure semblable à celle de 2015. M. Erdogan a dit qu'il espérait arracher une trêve en Syrie lors de discussions à Moscou jeudi avec le président russe Vladimir Poutine. Et puis l'Union européenne et le Royaume-Uni ont ouvert ce lundi les discussions sur leurs futures relations post-Brexit. En cas d'échec, c'est un no deal qui s'imposera à la fin de la période de transition le 31 décembre. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique dans la Minute Éco, présentée ce soir par Bagassi Koura.
Sivka, le premier groupe agro-industriel ivoirien, a ouvert sa deuxième usine de traitement de caoutchouc au Ghana, qui permettra de presque doubler la capacité de la précédente unité. La nouvelle usine augmentera la production du Ghana Rubber Estate Limited de 70 000 tonnes par an en 2020 à 120 000 tonnes par an en 2030 afin de répondre à la disponibilité croissante des matières premières et à la demande mondiale de caoutchouc transformé, a déclaré l'homme d'affaires Jean-Louis Billon, PDG de Sivka. Cette nouvelle usine, Grel TBU, va créer 204 emplois directs en 2020, allant jusqu'à 620 en 2030. Au Sénégal, la Sonatel va lancer cette année les premiers tests sur la 5G, rapporte Financial Afrique, qui précise que la décision reste soumise à l'approbation de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. Le média cite Oumar Gueye, directeur de la stratégie et du développement de Sonatel, qui aurait indiqué vendredi que les travaux ont commencé. Un premier test se fera avant la fin de l'année, selon les mêmes sources. L'opérateur kényan Safaricom a été récompensé fin février par la GSMA, l'Association des opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile, à la fois pour la contribution remarquable à l'industrie du mobile que constitue la création du paiement mobile et pour DigiFarm, son application destinée aux agriculteurs, selon Jeune Afrique.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Mouad Hadji démissionne de son poste de secrétaire général de la CAF.
Oui, le Marocain a pris les rênes du secrétariat général de la CAF le 11 avril 2019 et aura donc passé moins d'un an au sein de l'instance africaine du football. Mouad Hadji n'a pas encore donné les raisons de sa démission. Il avait succédé à l'Égyptien Amr Fahmy, récemment décédé. Avant la CAF, Mouad Hadji a été président de la commission d'éthique du Raja Casablanca entre 2009 et 2011. Il était le chef de cabinet de l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Moncef Belkayat. Il a été aussi directeur de la commission de coopération. À la CAF, Mouad a été nommé coordinateur général chargé de superviser les actions administratives de l'instance avant d'être nommé secrétaire général en remplacement d'Amr Fahmy.
MLS, le Los Angeles FC plombe les débuts de l'Inter Miami.
Oui, le club de David Beckham, nouveau venu dans le championnat nord-américain, a débuté par une défaite 1-0 sur la pelouse du Los Angeles FC, vainqueur grâce à son incontournable attaquant mexicain Carlos Vela. Ce tout premier match officiel est une victoire en soi pour l'Inter Miami, dont le projet de monter en MLS a mis 6 ans à se concrétiser, avec David Beckham comme copropriétaire et président des opérations foot. Nashville, autre club nouvellement créé, a aussi cédé à domicile face à Atlanta 2-1. Les Seattle Sounders, champions en titre en eux, bien débuté la saison en battant Chicago 2-1. L'Impact Montréal et son nouvel entraîneur Thierry Henry se sont imposés à domicile contre New England 2-1.
Anthony Joshua défendra ses 3 titres à Londres.
Nous parlons de boxe et le Britannique d'origine nigériane a confirmé qu'il défendrait ses titres WBA, IBF et WBO des poids lourds face au Bulgare Kubrat Poulev. Le 20 juin, Anthony Joshua avait pris sa revanche sur l'Américain Andy Ruiz qui lui avait infligé sa première défaite chez les pros en juin dernier à New York. Cette affiche Joshua Poulev, prévue au stade de Tottenham, éloigne davantage la perspective d'un combat de réunification des 4 ceintures des poids lourds, comme l'espéraient les fans de boxe. L'autre Britannique Tyson Fury, détenteur du titre WBC, le seul qui manque à Joshua, affronte l'Américain Deyton Wilder le 18 juillet à Las Vegas.
NBA, les cadors ont brillé la nuit dernière.
Oui, Gianni Antetokounmpo a inscrit 41 points avec en bonus 20 rebonds et 6 passes décisives en 34 minutes de jeu pour permettre à Milwaukee de s'imposer dans les derniers instants à Charlotte 93-85. De son côté, LeBron James a réussi son 13e triple-double, 34 points, 13 passes et 12 rebonds, son meilleur total de la saison pour offrir une 46e victoire aux Los Angeles Lakers, 122-114 face aux Pelicans. Dans la lutte pour la deuxième place à l'ouest, les Clippers et Denver restent à égalité après leur victoire respective contre Philadelphie 136 à 130 et Toronto 133 à 118.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. Et à présent, les dossiers du jour. Au Niger, un audit du ministère de la Défense a révélé d'importants détournements de fonds de centaines de milliards de francs CFA destinés à l'achat d'équipements pour les soldats engagés dans la lutte contre le terrorisme. Le sujet fait grand bruit à Niamey au vu des mesures annoncées par le gouvernement pour traiter le dossier. On fait le point avec notre correspondant sur place, Abdulrazak Idrissa.
L'affaire faisait grand bruit sur les réseaux sociaux et dans certains médias depuis des semaines. De graves malversations financières dans les marchés d'achat d'équipements militaires au ministère de la Défense nationale. Plus de 1700 milliards de dépenses ne seraient pas justifiées. Dépassé par l'étendue des dégâts, l'actuel locataire du ministère en parle dans des réunions privées. Une de ses déclarations fuite et circule sur les réseaux sociaux. Le gouvernement décide enfin d'en parler à travers un communiqué lu par son porte-parole Abdrahmane Zakaria.
Cet audit, le premier du genre, a relevé des insuffisances dans les procédures de passation des marchés ainsi que dans le suivi de leur exécution et a formulé des recommandations. Sur la base de ces recommandations, le gouvernement décide de faire rembourser les montants indûment perçus, soit en raison de surfacturation, soit au titre des paiements de services et livraisons non effectués ou partiellement effectués, de transmettre aux tribunaux compétents les dossiers des fournisseurs qui refuseraient de s'exécuter, de prendre les sanctions administratives appropriées à l'endroit des agents publics incriminés et de renforcer en compétence l'administration des marchés du ministère de la Défense.
Censé faire baisser la levée de bouclier au sein de l'opinion sur cette affaire, le communiqué du gouvernement en a plutôt rajouté.
En tant que Nigériens, nous sommes offusqués d'entendre les propos tenus par le ministre porte-parole du gouvernement à travers son communiqué laconique, qui ne veut rien dire, qui est un communiqué de divertissement et ne parle que des commerçants. Mais qui a validé le marché? Ça, c'est de la diversion. Il faut que les responsables politiques concernés puissent payer pour ce qu'ils ont été amenés à pour.
Nous disons même l'État est complice de cette affaire. Si réellement il ne les a pas permis, il est complice de cette affaire. On les ferme et les paye en même temps.
Les décisions annoncées du gouvernement sur cette affaire ne sont pas également du goût des magistrats. Nous, Aboubakar, secrétaire général du syndicat autonome des magistrats du Niger.
À travers cette décision, digne d'un régime d'exception, le gouvernement s'érige en juridiction et consacre une nouvelle catégorie de citoyens justiciables de la très indulgente juridiction gouvernementale auquel on donne le choix de rembourser les colossaux montants des deniers publics qu'ils sont soupçonnés d'avoir détournés sous peine d'une hypothétique poursuite judiciaire ou administrative, à l'opposé du commun des mortels qu'on peut faire arrêter et poursuivre pour toute atteinte aux biens et deniers publics.
Pour protester, le syndicat des magistrats projette d'observer une journée justice morte dans les prochains jours. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Au Bénin, crise au sein du parti de Yahi Boni. L'ancien président, qui a eu des ennuis avec le pouvoir après les législatives de l'année dernière, a tenté en vain un règlement à l'amiable. Aujourd'hui, le parti des forces Cori pour un Bénin émergent est scindé en deux et son avenir est incertain à quelques mois des élections communales et municipales. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adondé.
Face à la crise qui secoue son parti, l'ancien chef d'État exige la tenue d'un congrès avant les communales et municipales du 17 mai 2020 prochain. Cette crise a commencé lorsque certains membres sont allés déposer les dossiers pour établir l'existence légale du parti. Eugène Azatassou, ancien coordonnateur des FCBE, avait laissé éclater sa colère.
Ils ont pactisé avec l'adversaire pour détruire le parti. Parce que dans tous les cas, ça a introduit un débat au niveau du parti. Ils vont répondre absolument devant les instances du parti.
Sur sa page Facebook, Yahi Boni, préoccupé par la situation, a écrit que le devoir institutionnel qui est le sien est de recommander une assise constitutive. Mais le nouveau secrétaire exécutif national considère qu'il n'y a qu'un seul parti politique et que les déclarations tous azimuts venant de certains leaders n'ont que pour seul objectif la destruction du parti. Pour Paul Rongpey, seules les décisions venant du bureau légalement reconnu par les autorités du pays sont à prendre au sérieux.
Il n'existe qu'un seul parti. FCBE aux yeux de l'État aujourd'hui. Et donc, nous tous, nous sommes dedans. Donc, je crois que le reste, c'est des soubresauts de gens qui pensent qu'on peut utiliser d'autres moyens pour dégager le pouvoir, mais nous, on pense que ce n'est pas la voie démocratique.
L'autre point qui divise les membres du parti est le retrait annoncé du parti de la Résistance, la coalition créée par les forces de l'opposition pour une synergie d'action contre le pouvoir en place. Pendant que le bureau ayant réussi à inscrire le parti approuve et justifie ce départ, l'aile soutenue par Yahi Boni continue de clamer son appartenance à ce regroupement. Selon l'ancien coordonnateur Eugène Azatassou, les FCBE continuent de partager et de lutter pour l'atteinte des objectifs de la Résistance.
Nous sommes unis par le fait que la façon dont le pays est géré ne nous convient pas. Chacun est arrivé à cet objectif-là de changer la gouvernance à la tête de notre pays par des chemins divers. Cela ne signifie pas du tout que l'on n'a pas cet objectif en commun.
Dans le rang des militants, les avis restent partagés sur cette crise qui ne laisse penser à un quelconque règlement à l'amiable. Au contraire, l'imminence des élections communales et municipales creuse davantage le fossé.
Vous n'avez pas vu comment l'UBF est parti en éclat? C'est de la même manière que la FCO aussi va partir en éclat, parce que c'est fini déjà. C'est fini.
On ne peut pas dire que ce parti là où cette alliance de partis va le voler en éclats. Donc, l'opposition doit savoir qu'elle a devant elle un parti de taille.
Quitte à eux de savoir gérer, s'ils savent gérer, ils peuvent encore rester dans l'opposition, soit ils vont toujours émerger. C'est un jeu politique. C'est à eux de savoir déplacer leur pion. Ce qui est sûr, l'opposition aussi ne doit pas lâcher.
Le parti traîne toujours ses contradictions internes et risque d'aller aux élections prochaines en rang dispersé. L'annonce du retrait momentané de la politique en pleine crise de Yahi Boni n'arrange pas les choses. De nombreux ténors accusent le pouvoir d'être au cœur de ces manœuvres qui ont pour but de fragiliser l'un des plus grands regroupements politiques du pays. De Cotonou, Jeanette Fleur dans les pour VOA Afrique.
Au Gabon, le métier de conducteur de poids lourd va désormais s'ouvrir aux femmes. Ainsi en a décidé le gouvernement, en partenariat avec les responsables de la zone économique spéciale de Libreville. Une formation à la conduite des engins et camions poids lourds est destinée aux jeunes filles sans emploi pour briser le tabou. Cette formation va durer 9 mois. Le reportage à Libreville de notre correspondant Ismaël Obiangze.
Brunette Iyanou, 34 ans, est fan du volant. Depuis sa plus tendre enfance, son père a souvent eu des véhicules, alors elle a choisi de limiter, mais avec un gros porteur.
On fait la marche arrière après. On avance un tout petit peu, vas-y.
C'est sur le site de la formation La Conduite des Poids Lourds que la jeune fille veut s'accrocher à son rêve. L'exercice du jour consiste à maîtriser le maniement du camion Bendigo.
On a déjà les bases, on sait dépasser un camion, on sait changer les vitesses. Le reste, c'est à venir. Avant d'arriver ici, j'ai d'abord fait des études au niveau terminal. Après, j'ai fait quelques formations. Donc, on va dire formation en mécanique et auto. Et j'ai aussi travaillé dans quelques entreprises aussi à Port-Gentil.
Brunette fait partie des 50 filles sélectionnées pour cette formation. Elles ont des profils croisés. Parmi les candidates, nous faisons la connaissance de Cornelia Mendom-Gema. Elle est diplômée en écotourisme, en plus d'être détentrice d'une licence en lettres modernes. Cornelia veut donc désormais s'essayer dans le bâtiment et travaux publics en conduisant les chargeuses.
Après ma formation, comme je disais tantôt, en écotourisme, je n'ai pas trouvé d'emploi. Ayant postulé un peu partout, j'ai passé de stage en stage sans suite. Voilà comment un matin, je me réveille, je trouve une annonce, une offre de formation. Et j'ai été intéressée parce que déjà depuis tout petit, j'étais fascinée par les voitures poids lourds. C'est ce qui m'amène d'abord à postuler à cette formation.
L'initiative de la zone spéciale économique, baptisée comme elle, répond selon ses promoteurs aux besoins économiques du marché gabonais. La formation est prévue pour durer 9 mois. Elle porte sur la structure de l'engin, les risques routiers et les catégories d'engins. Stéphanette Andon est chargée de la communication du pôle formation du projet comme elle.
Les femmes seront formées sur les engins de chantier de terrassement, les engins de levage et de manutention et la conduite professionnelle qui est essentiellement axée sur les camions bennes et les camions semi-remorques pour tout ce qui est transport de personnes ou de marchandises.
Elles ont 3 jours en salle et 2 jours de terrain. À la fin de cette formation, les candidates passeront les permis C, D et G. Libreville, Ismaël Obiancé, VO Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VO Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Les États-Unis ont signé samedi à Doha un accord historique avec les talibans. C'est un premier pas vers la fin d'une guerre de 19 ans en Afghanistan. Moins de 24 heures après sa signature, l'accord subit ses premiers blocages, montrant que sa mise en œuvre sera comme un parcours du combattant. Aïssa Tanzim, envoyé spécial de la VOA à Doha, fait le point. Et c'est un récit de Lionel Gaïma.
L'euphorie de la signature s'est très vite heurtée à la dure réalité. Les talibans ont annoncé mettre un terme à la trêve partielle instaurée le 22 février et reprendre leur offensive contre les forces de sécurité afghanes. La période de réduction de violence qui aura duré 9 jours a pris fin et nos opérations vont revenir à la normale, a déclaré Zabihullah Mujahid, porte-parole des insurgés. Il précise cependant que les Mujahidines ne vont pas attaquer les forces étrangères. La mise en œuvre de l'accord fait déjà face à son premier obstacle, Ashraf Ghani, le président afghan.
La libération des prisonniers ne relève pas de l'autorité des États-Unis, c'est l'autorité du gouvernement afghan. Nous ne sommes pas d'accord avec les États-Unis sur ce point. Cela devrait être discuté dans le cadre des négociations globales.
Selon l'accord, 5000 prisonniers talibans doivent être libérés en échange de 1000 membres de forces afghanes détenus par les rebelles. Cet échange de prisonniers est pour les talibans un préalable à l'amorce de la deuxième phase des négociations inter-afghanes. De l'avis des insurgés, c'est un casse-tête américain. Khairullah Khairkoa, membre de l'équipe des talibans.
Nous avons décidé du sort de nos 5000 prisonniers avec les Américains. Ils ont promis, dans l'accord, que ces prisonniers seront libérés avant le début des négociations inter-afghanes. Pour nous, cette question est réglée.
S'exprimant sur une télévision américaine, le secrétaire d'État Mike Pompeo a déclaré que personne ne se faisait aucune illusion que la mise en œuvre de l'accord serait simple ou facile. L'accord prévoit le retrait des forces américaines d'Afghanistan dans les 14 mois. Pour le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, le rythme de ce retrait sera lié aux actions des talibans.
Nous surveillons de près le respect par les talibans de leurs engagements et nous allons calibrer la cadence de notre retrait à leurs actions.
Pompeo a également invité les talibans à s'asseoir avec le gouvernement afghan, d'autres dirigeants politiques et de la société civile pour entamer les discussions difficiles sur une feuille de route politique pour leur pays. Le chef de la délégation des talibans, le Mollah Abdul Ghani Baradar, n'a pas rejeté cette idée.
En tant que force politique et militaire majeure, l'émirat islamique d'Afghanistan souhaite avoir de bonnes relations avec ses voisins dans la région et à travers le monde et jouer un rôle constructif dans la région et dans le monde.
Selon l'accord signé à Doha, la prochaine phase des négociations inter-afghanes commence le 10 mars. L'Afghanistan a fait un pas de plus vers la fin d'une guerre qui a duré 19 ans et aura coûté la vie à plus de 100 000 personnes. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant que le pays ne connaisse la paix et la stabilité.
Fin de cette édition. émission. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde de Lionel Gaïma, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.